Vous êtes avec SBS French. Retrouvez les rubriques sur sbs.com.au/french.
Grand titre de ce 14 février, l'ancien président américain Donald Trump, acquitté lors d'un deuxième procès de destitution. Les entreprises victoriennes affrontent une semaine difficile avec un verrouillage de 5 jours et puis les festivités du nouvel an lunaire et une quinzaine de jours de célébration commencent ce week-end. L'ancien président américain Donald Trump a été acquitté pour incitation à l'insurrection en relation avec l'émeute du 6 janvier dernier. Plus tôt, Jamie Raskin, le principal procureur démocrate, a déclaré que les preuves étaient accablantes que le président avait incité la foule. On l'écoute.
It's now clear beyond doubt that Trump supported the actions of the mob, and so he must be convicted. It's that simple. When he took the stage on January 6th, he knew exactly how combustible the situation was. He knew there were many people in the crowd who were ready to jump into action, to engage in violence at any signal that he needed them to fight, like hell, to stop the steal. And that's exactly what he told them to do.
Sept membres républicains ont voté, ou plutôt sept sénateurs républicains ont voté pour condamner l'ancien président américain Donald Trump lors de son procès. Reportage Anne Corpé. RFI.
Il a quitté, et ce n'est pas une surprise, hein, le vote dans le cadre de cette procédure obéit à des critères politiques. Sept républicains ont néanmoins jugé Donald Trump coupable d'incitation à l'insurrection. Lors de la première procédure intentée contre Donald Trump l'année dernière, seul Mitt Romney avait osé franchir le Rubicon. Alors peu avant le vote, les procureurs démocrates avaient appelé solennellement les sénateurs à condamner Donald Trump. Ce qui est arrivé le 6 janvier peut se reproduire. Sénateur, cela doit être la fin et non pas le début. Cette décision est entre vos mains, a lancé l'éloquent Joe Negus. Notre réputation et notre héritage sera inextricablement lié à votre décision, a renchéri Jamie Raskin. Mais l'avocat de Donald Trump a lui évidemment plaidé l'innocence de l'ancien président. Il a dénoncé la procédure la plus injuste de l'histoire du Sénat américain. Il est temps de mettre un terme à ce théâtre politique, s'est-il exclamé. Ce procès a en tout cas été mené en un temps record, hein, 5 jours contre 21 lors de la première procédure. Les deux camps se sont finalement mis d'accord ce matin pour ne pas entendre de témoins. Ils étaient pressés d'en finir. Donald Trump a donc été innocenté, mais 7 élus de son propre camp l'ont défié et il restera dans l'histoire. C'est le seul président américain à avoir fait face à 2 reprises à cette procédure infamante de destitution.
En Australie maintenant, le Victoria a enregistré 3 nouveaux cas de COVID-19, 2 nouveaux cas acquis localement et 1 cas en quarantaine. Il y a maintenant 22 cas actifs dans l'État. 4 nouveaux emplacements ont été ajoutés à la liste des sites d'exposition au COVID-19 alors que l'État entre dans son deuxième jour de verrouillage. Les 4 endroits dont un Woolworths à Broadmeadows, 2 centres de natation et une boulangerie avaient été visités par une personne potentiellement infectieuse au COVID-19. Je m'excuse. Il existe désormais près de 40 sites d'exposition à Melbourne. Les propriétaires des entreprises disent qu'ils sont confrontés à des problèmes financiers importants à l'occasion de la Saint-Valentin et du Nouvel An chinois. Le week-end était censé être l'un des plus animés pour les entreprises, mais le Victoria a annoncé un verrouillage de 5 jours pour contenir cette épidémie de la variante britannique très contagieuse. Will Newton, propriétaire du restaurant Lover, dit qu'il perdra jusqu'à 40 000 dollars de revenus.
It's absolutely heartbreaking. I've got 148 phone calls just for Valentine's Day to let people know that we unfortunately are trying to move romance this year till next week. It's very horrible. We've also got to deal with the excess of food and alcohol we had ordered. We've got a couple of hundred oysters sitting in the fridge. We don't have contingencies for this, only just being back on our feet.
28e jour consécutif sans cas de Covid-19 acquis localement en Nouvelle-Galles du Sud. C'est la plus longue période avec zéro cas communautaire depuis le début de la pandémie. Les festivités du Nouvel An chinois et une quinzaine de jours de célébration commencent ce week-end à New York, durement touchée en raison du Covid-19. La photographe Cici Liu déclare que les gens ont désespérément besoin de quelque chose pour se sentir bien.
We need something to celebrate. We need something that to just give us good energy and give us just an excuse to be different. And I guess Year of Cow has just allowed us to do something different and do something just completely out of our own mind and go ahead and go straight forward. Like there's a sentence like 牛气冲天 means like raise up like a bull. So yeah, we all just need that energy just to go ahead, just do it.
Et dans le quartier chinois de Sydney, ces gens disent qu'ils attendent avec impatience un nouveau départ.
Well, just health, prosperity, hope for everyone to be safe, especially during this time of the pandemic.
Happiness and safe and no more COVID in the whole world. Yeah.
En France maintenant, le Nord fait face à une flambée de cas de variants sud-africains et brésiliens du Covid-19. Précision de Aram Beng pour RFI.
Dans le département du Nord, le nombre de nouveaux cas pour 100 000 habitants est passé de 384 à 515 en une semaine seulement. Cette augmentation rapide du taux d'incidence a d'ailleurs poussé les maires de la communauté urbaine de Dunkerque à réclamer ce vendredi la fermeture des écoles, collèges et lycées en anticipant d'une semaine les vacances scolaires prévues le 20 février dans cette zone. Ce samedi, la préfecture du Nord annonce de nouvelles mesures, mais les écoles restent ouvertes avec quelques aménagements du protocole. Sanitaire. À partir de lundi, l'arrivée et la sortie des élèves en primaire seront décalées pour éviter les attroupements et donc les brassages. En ce qui concerne les collèges et lycées, les effectifs dans les classes seront réduits. Une moitié des élèves fera cours en présentiel et l'autre moitié en distanciel. Par ailleurs, la vaccination sera renforcée à Dunkerque et ses alentours et plus de contrôles aux frontières avec la Belgique et le Royaume-Uni sont aussi prévus pour limiter la propagation des variants du Covid-19 dans le département du Nord.
Et maintenant, direction à la frontière entre la France et la Belgique. Voyons comment est la situation avec Jérémy Audouard pour RFI.
Bonjour monsieur, police de la route.
Oui.
Nous sommes sur une bretelle d'autoroute à hauteur de la commune de Brully, dernière sortie avant la France. Seules quelques dizaines de voitures ont traversé la frontière ce matin et c'est le commissaire Deniec qui mène les opérations de contrôle.
Comment est-ce que vous faites pour repérer les voitures qu'il faut contrôler ou pas ?
Il n'y a pas de repère, c'est au pif.
Joséphine peut poursuivre sa route vers l'Hexagone. Elle a prouvé que son déplacement était essentiel.
Je vais rejoindre mon amoureux qui se languit sans moi. J'ai présenté un document que j'avais complété comme quoi j'allais rejoindre mon fiancé. J'avais pris avec moi des photos pour prouver que ça fait 19 mois qu'on est ensemble.
Cette famille de Français traverse la frontière pour des raisons familiales.
Pour m'occuper de ma maman qui a 100 ans et qui a besoin qu'on s'occupe d'elle, parce qu'elle est encore à la maison.
Dans la majorité des cas, les voyageurs sont en ordre et de bonne foi. Selon notre commissaire, très peu de vacanciers français tentent de resquiller.
Vous avez eu beaucoup de cas de Français qui essayent de venir ici pour des motifs non essentiels ?
Non, et aujourd'hui on n'en a pas eu. D'après ce que j'ai entendu sur les autres jours de contrôle, pratiquement pas.
En cas de non-respect des règles, les amendes sont fixées à 250 € par personne.
L'accès aux vaccins avec des inquiétudes que ce sont les pays riches qui ont la priorité. Une lettre a été publiée dans le magazine médical The Lancet que les pays riches ont accaparé 70% des doses de vaccins. Mark Jitz est un co-auteur de la lettre. On l'écoute.
Nous avons besoin de plus de doses de vaccins. C'est bien d'avoir investi beaucoup d'argent pour essayer d'en produire le plus possible, mais il faut faire plus, notamment transférer les technologies qui permettent aux pays en voie de développement de fabriquer le vaccin, et ce, pour toute la chaîne logistique. La production du vaccin à l'échelle mondiale pourrait être beaucoup plus efficace. Le premier enjeu est d'avoir un nombre suffisant de doses du vaccin. Ensuite, une fois que nous avons assez de doses, il faut s'assurer que les premiers vaccinés soient ceux qui en ont le plus besoin, où qu'ils soient sur le globe, c'est-à-dire les plus vulnérables, les personnes à risque, mais aussi les personnes qui sont au quotidien au contact avec le coronavirus et qui ont le plus de chances de le répandre, c'est-à-dire les soignants, les aidants, les enseignants. Il faut à tout prix que ces personnes qui sont les plus susceptibles de propager l'épidémie soient protégées et vaccinées, où qu'elles soient.
En Italie maintenant, Mario Draghi a prêté serment comme nouveau Premier ministre à la tête d'un gouvernement d'union nationale. Et tout à l'heure, durant l'émission, notre personnage de la semaine sera Mario Draghi, le nouveau Premier ministre italien. La Catalogne vote ce dimanche aux élections régionales avec en toile de fond le coronavirus. Reportage de Élise Garganzel pour RFI.
3 ans après le référendum catalan jugé illégal par Madrid, les indépendantistes semblent à bout de souffle en pleine campagne électorale. Même si les sondages leur donnent une majorité, cette fragile entente pourrait ne pas se répéter, comme l'explique la politologue Gemma Ubasart, pour qui les deux partis en coalition au pouvoir actuellement dans la région sont en crise.
Ils ne partagent ni les mêmes projets pour l'indépendance, ni leur politique publique, et en plus ils ne s'entendent pas entre eux.
De l'autre côté de l'échiquier politique, l'extrême droite, Vox, devrait faire son entrée au Parlement catalan pour la première fois en s'appuyant sur un double discours. Tony Rodon, professeur de sciences politiques.
En Catalogne et en Espagne, Vox est aussi contre l'immigration et les lois d'égalité, mais moins qu'ailleurs en Espagne. Ici, ils sont surtout un parti nationaliste espagnol, mais version extrême.
Ces élections de dimanche seront aussi marquées par l'abstention qui devrait être beaucoup plus importante qu'en 2017, à cause de la pandémie, mais aussi de l'insatisfaction politique. Reste à savoir quelles alliances seront possibles pour former un nouveau gouvernement.
Les habitants de Birmanie réagissent en défiant les autorités qui profitent de la nuit pour arrêter les opposants au coup d'État militaire. Des images vidéo montrent des gens frappant des casseroles pour avertir leurs voisins de l'approche des forces de sécurité. Des manifestations ont eu lieu depuis que l'armée a pris le contrôle du pays le 1er février dernier. L'armée a annoncé hier que des mandats d'arrêt avaient été émis contre 7 militants de l'opposition. Un mot de sport et l'Open d'Australie de tennis se poursuit à huis clos pour encore quelques jours. Hier, l'Australien Alex de Minaur a été éliminé et il ne reste que Ash Barty pour défendre les couleurs du pays. Rafael Nadal, l'Espagnol, poursuit sa route et il va rencontrer l'Italien Fognini qui a éliminé Alex de Minaur.
We played a lot of times. He beat me a couple of times. He came here after an injury, so he will be hungry to play well. Very impressive victory today against Minaur. I saw it in a straight set. So he will come to that match with plenty of confidence. Let's see. No, I need to keep improving.
Et quant à Novak Djokovic, on saura plus tard ce dimanche s'il est remis de sa blessure pour affronter Miloš Raonic, le Canadien. Et puis d'autres nouvelles sportives tout à l'heure après ce journal. On passe à la météo pour ce dimanche en Australie. À Perth, il fera 35 degrés. Adélaïde, 26 degrés. Melbourne, 22. Hobart, 23. Canberra, 25. Sydney, 25. Brisbane, 27. Cairns, 32. Darwin, 31. Et à Alice Springs, un maximal de 32 degrés. Un rappel des grands titres de ce 14 février. L'ancien président américain Donald Trump a quitté lors d'un deuxième procès de destitution. Les entreprises du Victoria affrontent une semaine difficile avec un verrouillage de encore quelques jours. Et puis les festivités du Nouvel An chinois et une quinzaine de jours de célébration à venir.
Vous aimez le programme en français? Continuons la conversation sur notre page Facebook. Rejoignez notre page Facebook et partagez vos pensées. facebook.com/SBS French.
Aimez, partagez, commentez. Suivez-nous sur facebook.com/SBS French.